vous invite à prendre votre Bible avec moi et nous allons étudier aujourd'hui dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 6. Et mon texte se trouve à partir du verset 22 jusqu'au verset 29. Et nous allons regarder ensemble ce que c'est l'œuvre de Dieu. Ça, c'est une expression que les gens aiment utiliser souvent en disant que Dieu a fait ceci ou bien Dieu a fait cela. Mais à savoir, qu'est-ce que véritablement une œuvre de Dieu? Ici, nous lisons à partir du verset 22, la foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum, à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit, « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. » Ils lui dirent, « Que devons-nous faire? Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ?» Voilà la question. Qu'est-ce que l'œuvre de Dieu ? Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Donc, nous avons vers la fin de ce récit la définition de l'œuvre de Dieu. Il y a plusieurs œuvres de Dieu qu'on peut dire manifestent sa puissance et sa gloire, telles que nous avons vu déjà ici dans le chapitre 6, le fait que Christ ait déjà multiplié le pain, cela démontre alors sa puissance en tant que Dieu. Cela ne doit pas nous étonner, le fait qu'il a multiplié le pain, il a fait ce miracle, parce que Dieu a créé toutes choses. Donc pour lui de prendre du pain et multiplier cela pour faire manger les gens, Dieu fait cela tous les jours avec ses créatures dans le monde, les oiseaux, les animaux dans la forêt se nourrissent directement de la main de Dieu. Donc cela ne doit pas étonner qui que ce soit. Mais le fait que le Seigneur Jésus lui-même ait fait cela démontre sans question que il est Dieu dans la chair. Parce que quel homme simple pourrait faire ceci? Même les gens qui prétendent aujourd'hui faire des miracles, je ne les vois pas en train de prendre du pain et des poissons et devant une foule multiplier cela afin que tout le monde soit rassasié à partir de quelques 5 pains et poissons. Les gens prétendent pouvoir avoir cette puissance de guérison et autres, mais je ne les vois pas en train de multiplier le pain comme le Seigneur Jésus a fait. Et deuxièmement, le fait que Christ a marché sur les eaux, comme nous avons vu la dernière fois, pour traverser la mer, non pas dans un bateau, ou comme c'est écrit ici, une barque, mais d'aller plusieurs kilomètres, des dizaines de kilomètres, traverser une mer sans barque. Cela a étonné même la foule qui est restée, comme nous avons vu dans le verset 22, de l'autre côté de la mer, et avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque, et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Les déplacements de notre Seigneur Jésus-Christ étaient comme lui-même il désignait, pas selon la volonté des hommes, mais selon sa propre volonté. Dans cela, nous voyons aussi qu'il est Dieu dans la chair. Donc ces choses ne doivent pas nous étonner, mais pour cela, les gens le poursuivaient. Comme aujourd'hui, il y a des foules qui parcourent mer et terre pour représenter, selon eux, un Jésus, je dirais un Jésus, parce que le Jésus qui est représenté n'est pas celui de la Bible. Nous constatons une grande différence entre le Jésus qui est prêché par les masses et les prédicateurs de nos jours, un Jésus populaire qui est venu pour pouvoir aux besoins matériaux des gens, et en comparaison avec le Seigneur Jésus de la Bible, tel que nous sommes en train de lire ici dans ce passage, qui est souverain et qui n'est pas nécessairement à la disposition des hommes quand ils veulent. Vous voyez comment le Jésus est représenté aujourd'hui comme là pour faire tout ce que l'homme veut, il suffit que l'homme cherche et qu'il demande, et voilà, s'il demande par la foi, il va recevoir tout ce qu'il demande. Ici, nous voyons le Seigneur Jésus en train de se cacher des hommes et de ne pas se révéler à eux, sauf si ce n'est que Christ lui-même fasse l'œuvre. Alors, nous voyons ici un tel Jésus dans la parole de Dieu. Un Jésus qui est souverain, un Jésus qui fait sa volonté quand il veut et où il veut et en qui il veut. Ça, c'est une véritable œuvre de Dieu. C'est l'œuvre que le Père accomplit à travers son Fils. Donc, ça, c'est la première chose. Quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, ce n'est pas que Dieu est entre les mains des hommes pour faire leur volonté, mais plutôt ce sont les hommes qui sont entre les mains de Dieu pour faire sa volonté. Les hommes aujourd'hui ont renversé cela, mais nous devons savoir que Dieu est Dieu, et l'homme est l'homme. Et donc, lorsque nous contemplons le Dieu de la Bible, nous voyons ce Dieu souverain qui fait sa volonté comme il veut. Et c'est pourquoi, quand cette foule, le lendemain, dans Jean 6, le verset 23, ont pris des barques pour arriver au lieu où le Seigneur Jésus se trouvait, et l'ayant trouvé dans le verset 25, ils se sont adressés à lui avec respect, parce que c'est écrit ici, « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Le mot « Rabbi », c'est le mot « maître ». Donc, ils ont poser cette question au Seigneur Jésus avec respect, pourtant ils étaient toujours ignorants de qui il est et pourquoi il est venu dans ce monde. C'est comme beaucoup aujourd'hui. Je crois que les gens sont sincères dans leur manière de chercher après un Jésus qui leur est prêché et qui s'approche de lui certainement avec respect, l'appelant maître, peut-être, ou seigneur. J'entends les gens dire seigneur dans leur prière, ils s'adressent à lui. Mais il faut savoir que ce n'est pas tous ceux qui disent seigneur, seigneur qui sont les siens. Ça demande une révélation de la part du Christ dans leur cœur pour qu'ils connaissent Christ en vérité. Ici, dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21 jusqu'au verset 23, le Seigneur a dit cela concernant ceux qui faisaient une profession de foi. Et je dois dire cela avec beaucoup d'assurance, croyant qu'ils étaient déjà enfants de Dieu. Mais le Seigneur dit dans Matthieu 7, 21, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », c'est comme le mot « Rabbi » ici, « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Il demande une explication de la part du Seigneur Jésus, tout en utilisant des mots de respect, « Seigneur, Seigneur ». Mais Christ dit, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. » Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. On peut peut-être demander alors qu'est-ce que c'est faire la volonté du Père. Alors, nous allons voir ça dans ce passage que nous sommes en train d'étudier dans Jean chapitre 6. Qu'est-ce que c'est faire la volonté du Père, parce que eux, ils ont demandé à Christ dans Jean 6, 28, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Ici, faire la volonté du Père. Et plusieurs me diront dans Matthieu 7, 22, en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement. Donc, d'autres regardent ça pour dire, ah, voilà, ça c'est faire la volonté de Dieu, ça c'est faire les œuvres de Dieu, prophétiser en son nom, chasser des démons par son nom, et faire beaucoup de miracles par son nom. Mais écoutez bien, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Voilà ce qui frappe les hommes, parce qu'encore, le Seigneur Jésus n'est pas à la disposition des hommes pour faire de lui ce qu'il veut, comme un acte de magie, où on appelle le magicien pour accomplir des miracles ou faire la magie devant les hommes, non. Alors, je le dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors, quand les gens entendent une telle parole, ils sont frappés, ils sont étonnés. Comme ceux ici dans Jean chapitre 6. C'est une foule qui poursuivait le Seigneur Jésus. Mais, quoique ces hommes le cherchaient, le Seigneur Jésus lui-même ne s'est point fié à eux. C'est comme plutôt dans Jean chapitre 2 et le verset 23, pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom. Faut faire attention même avec ce mot croire. Parce que beaucoup, comme ceux mentionnés dans Matthieu 7, se disaient des croyants en son nom. Mais pourquoi? Voilà, c'est le mobile qui n'est pas correct. Et nous allons voir ça tout à l'heure dans Jean 6, mais ici dans Jean 2 et le verset 23, c'est écrit, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Est-ce possible que des gens poursuivent le Seigneur à cause des miracles qu'il désirent? Certainement. Mais cela ne veut pas dire qu'ils appartiennent au Seigneur. Comme ceux dans Matthieu 7 qui disaient qu'il prophétisait en son nom et qu'il faisait des miracles en son nom. Et le Seigneur a dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Tout en faisant ses œuvres, il commettait l'iniquité parce qu'il ne représentait pas en vérité le Seigneur Jésus et qui il est et pourquoi il est venu. Et ici dans Jean 2, verset 24, Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Et c'est vrai aujourd'hui, le Seigneur sait ce qui est dans l'homme. Ce n'est pas seulement ce qui sort de la bouche qui indique que quelqu'un lui appartient. Si le cœur d'un pécheur n'appartient pas à Christ, c'est-à-dire si ce pécheur-là n'est pas un de ceux-là pour qui Christ est venu dans le monde et qu'il a payé sa dette ou qu'il lui appartient, peu importe ce que ces pécheurs-là font, ils vont toujours terminer par la condamnation. Le salut est l'œuvre de Dieu. Et donc, Christ rappelle cela à toute cette foule, surtout en Jean 6. On commence avec une foule qui poursuit le Seigneur Jésus, mais plus tard dans le chapitre, nous allons voir à partir de versets 65 et 66. Jean 6, 65, il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi. Ceux-là se sont approchés de lui physiquement, ils sont venus physiquement à Christ, mais ici, nul ne peut venir spirituellement. Cela veut dire du cœur à lui, si cela ne lui a été donné par le Père. C'est pourquoi Christ a dit à ceux-là dans Matthieu 7 et le verset 21-22, il dit, je ne vous ai jamais connu. Voilà la différence, je ne vous ai jamais connu. Le salut, c'est d'être connu de Christ et non pas le pécheur qui doit connaître Christ. C'est Christ qui doit connaître le pécheur et approuver le pécheur. Et Christ approuve tout ce que le Père lui a donné. Alors, c'est écrit dans le verset 66, « Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. » Donc, Christ lui-même fait une séparation entre ceux qui font profession de lui et ceux qui lui appartiennent véritablement. Donc, quand nous voyons ici dans notre texte, ici dans Jean 6, 22 à 29, nous voyons le Seigneur en train de déchiffrer entre ce qui est véritablement le blé et ce qui n'est que l'ivraie. Jésus leur répondit, verset 26, « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez. » Donc, voilà encore le mobile pour lequel certains cherchent à s'approcher de Christ, que le Seigneur lui-même dénonce. Il dit, « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles. » Donc, il va même plus loin que de simples miracles. Il dit que vous n'êtes pas venus simplement par curiosité. Il y en a qui sont comme ça, qui n'ont aucune intention de connaître Christ en vérité, mais dès qu'ils entendent qu'il y a un prédicateur qui fait des miracles quelque part, ils courent. Ils sont curieux parce qu'ils veulent voir. Et puis ils retournent maintenant pour raconter ce qu'ils ont vu. Christ leur dit que même ceux-là ne se sont pas venus simplement pour par curiosité pour voir les miracles. Il dit dans le verset 26, « Mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » Donc pour eux, c'était plutôt sur un plan physique qu'ils sont venus, pensant que chaque fois qu'ils s'approchent, alors Christ va les nourrir physiquement. Et il y en a qui sont attachés à leur organisations religieuses pour cette raison. Il faut dire que le monde est rempli d'organisations religieuses qui ont simplement pour but d'attirer des gens à faire une profession de foi en les nourrissant. Ils prennent des sacs de riz et ils prennent la nourriture, ils distribuent cela dans le but de faire venir beaucoup de gens dans leurs organisations et être attachés au Jésus qu'ils annoncent. Il faut faire attention même pour cela, parce que le Seigneur Jésus lui-même dit, et voilà, nous arrivons au point de ce message concernant l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que l'œuvre de Dieu? Le Seigneur démontre ce qui est une véritable œuvre de Dieu. Ici, il dit dans le verset 27 de Jean 6, « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. » Donc, déchiffrons ce que Christ est en train de dire ici, pour quelques moments. Premièrement, il dit « travailler non pour la nourriture ». Il ne dit pas ici de ne pas travailler. Cela ne signifie pas que nous ne devons faire aucun effort pour l'approvisionnement de nos besoins. C'est le contraire. Ceux qui sont des créatures de Dieu, tout ce que Dieu a créé physiquement dans le monde, il a créé pour œuvrer. C'est pourquoi le soleil se lève chaque jour. C'est pourquoi le sol dans lequel le cultivateur sème la semence pousse du fruit. Tout ce que Dieu a créé fonctionne. Et la même chose concernant ces créatures, les hommes, il ne doit pas avoir des paresseux. Dans 1 Timothée, chapitre 5, et le verset 1, il dit, « Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père, exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, et celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute purité. » Quand il dit de les exhorter, il les exhorte dans le sens de s'occuper les uns des autres, que chacun accomplisse le rôle pour lequel Dieu l'a établi dans ce monde et lui a donné la vie. Si nous sommes encore en vie et nous avons la capacité de travailler, donc, nous devons travailler dans 2 Thessaloniciens chapitre 3 et le verset 10. Paul a écrit aux Thessaloniciens en disant, « Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Pourtant, il y a des gens qui se donne au ministère, je dirais des ministères religieux, des organisations religieuses et ils veulent vivre aux dépens des autres. Je dirais qu'ils sont des paresseux. Ils n'ont aucune intention de travailler avec leurs propres mains, mais ils veulent vivre aux dépens de l'Église. Il y en a beaucoup comme ça. Et donc, les dirigeants exigent davantage des offrandes et autres, des mains de personnes qui travaillent pour nourrir ceux-là qui ne veulent pas travailler. Mais ce n'est pas dans ce sens que Christ dit ici, travailler non pour la nourriture qui périt. Mais ce qu'il veut dire, c'est que nous ne devons pas manifester d'inquiétude en ce qui concerne la nourriture physique. Que si nous sommes en train de travailler selon les talents que le Seigneur nous donne, nous ne devons pas nous inquiéter de savoir comment nous allons vivre ou bien comment nous allons manger, parce que tout cela, Dieu lui-même a déjà pourvu. Et c'est pourquoi dans Matthieu chapitre 6, le Seigneur donne cette instruction à ses disciples et ça s'applique aussi à nous aujourd'hui. Il dit simplement dans le verset 19, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Donc, travailler pour subsister est une chose, mais avoir la convoitise d'avoir plus, voilà ce qu'il faut éviter. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dévorent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dévorent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est la même chose que Christ est en train de dire ici dans Jean 6. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Voilà le trésor qui est dans le ciel. Tout ce qui concerne ce monde, comme la nourriture, doit périr. Mais cette nourriture qui subsiste, c'est ce qui concerne le Seigneur Jésus et la vie éternelle en lui et les doctrines de l'Évangile qui sont enseignées ici dans les Écritures, qui fortifient une âme faible et coupable avec la nourriture nécessaire pour cette âme faible et fatiguée. C'est pourquoi Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai le repos. Le repos, c'est de savoir que lorsque Christ est venu dans le monde, il a payé la dette de ce que le Père lui avait donné depuis l'éternité. Et cette dette étant payée, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, nous devons vivre, mais nous ne devons pas convoiter les résultats de nos travaux, de ce que nous faisons. Nous devons nous contenter de tout ce que le Seigneur nous donne et ne pas chercher davantage. Et c'est ce que Christ a dit dans Matthieu chapitre 6, et le verset 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez. Cela ne veut pas dire ne pas travailler, mais ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez donc comme croissent les lis des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existent aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtera-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Donc ici, dans Jean 6, voilà le sens du verset 27. Ce n'est pas que Christ dit ne pas travailler, mais ne vous inquiétez pas en travaillant selon la force qu'il donne, parce que Dieu pourvoira toujours aux besoins de ses enfants. Mais ce qui est clé dans le verset 27, si nous revenons là, Jean 6, il dit de travailler pour celles qui subsistent pour la vie éternelle. Travailler dans quel sens? Avoir les désirs et chercher à entrer par la grâce de Dieu par cette porte qui mène à la vie éternelle. Et c'est une porte étroite, c'est pas pour tout le monde. C'est selon ce que le Seigneur lui-même donne, parce que verset 27 dit cela, « Et que le Fils de l'homme vous donnera. » Le salut provient de lui. Donc, nous ne devons pas œuvrer ou travailler selon nos propres efforts, imaginant que par là, nous allons gagner le ciel. Notez bien, il dit, « Travaillez pour celles qui subsistent pour la vie éternelle, pour toujours. » Qu'est-ce qui subsiste pour toujours? C'est l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a accomplie à l'égard des pécheurs pour qui il est venu. Donc le salut est toujours entre ses mains, et c'est à lui donc que nous nous approchons, pas pour des choses matérielles, mais de la vie spirituelle, la vie éternelle qui est en lui. Et notez bien pourquoi c'est écrit, car c'est lui que le Père, et notez que Dieu a marqué de son sceau. Le sceau, c'est une approbation. Et cela est pour dire que le Seigneur Jésus, par les miracles et par d'autres manifestation de son pouvoir, avait déjà démontré que son sceau était sur lui, comme le Messie. Et donc, il avait été envoyé par le Père, et notez bien, qui est Dieu, et avait déjà approuvé ses doctrines, c'est-à-dire ses enseignements, et a déjà ratifié tous ces travaux. L'œuvre que Christ est venu accomplir était approuvée par le Père. Donc c'est pourquoi nous pouvons nous confier en lui en ce qui concerne le salut et même pour tous nos besoins. C'est en lui que nous pouvons nous confier. Donc cela nous amène maintenant à la conclusion, parce que les gens, en entendant cela, dans le verset 28, lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? C'est intéressant que l'homme veut toujours s'introduire dans cette affaire du salut et la gloire, disant, ah, mais donne-nous aussi le pouvoir pour faire ces œuvres, comme toi tu fais. Les gens cherchent à avoir cette puissance de Christ. Mais notez bien la réponse que Christ donne. Et ça, c'est maintenant le point clé de tout ce message concernant l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que l'œuvre de Dieu? Jésus leur répondit, Jean 6, 29, l'œuvre de Dieu. Ils ont parlé Notez bien dans le verset 28, des œuvres de Dieu. L'homme veut savoir comment il peut faire ceci ou faire cela pour en tirer à lui la gloire, les œuvres de Dieu. Mais verset 29, Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu. Et encore, voilà sur quoi il faut mettre l'attention maintenant. L'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que l'œuvre de Dieu? C'est écrit, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et vous allez remarquer, et nous allons reprendre ça la prochaine fois dans le verset 30. Tout cela, ils n'ont rien compris, parce que verset 30, quel miracle fais-tu donc? Lui dit-il, afin que nous le voyons et que nous croyons en toi, que fais-tu? L'homme va toujours poursuivre dans l'incrédulité d'autres manifestations et rester toujours incrédule. Mais Christ dit ici, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et voilà le message que nous devons annoncer aujourd'hui dans notre génération. Parmi les gens qui courent par-ci, par-là pour faire des œuvres de Dieu, ou même d'autres qui disent qu'ils sont à l'œuvre pour Dieu, pour leur poser la question, qu'est-ce que l'œuvre de Dieu? Ce n'est pas ce que l'homme fait qui est l'œuvre de Dieu. Ici, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Il faut demander, poser la question, d'où vient la croyance? D'où vient cette foi? C'est déjà indiqué dans le verset 27 de Jean 6, et que le Fils de l'homme vous donnera. Donc, que ça soit la foi, que ça soit la repentance, que ça soit la vie, tout cela vient de la main du Fils de l'homme. Plus tard, ici dans ce passage, Christ soulignera cela dans Jean 6, le verset 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Les gens pensent qu'ils peuvent venir à Christ et recevoir ce qu'ils veulent à n'importe quel moment. Christ dit, nul ne peut venir si ce n'est le Père qui l'attire. Christ a déjà dit ça à Nicodème dans Jean chapitre 3, à partir du verset 3. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, né d'en haut, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et encore dans le verset 8, il démontre que cela est l'œuvre souveraine de Dieu. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. L'homme ne peut rien. Et si l'homme pense qu'il peut atteindre à Dieu par ses efforts, donc il se trompe. C'est pourquoi il dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. Croire n'est pas une œuvre faite par l'homme. Croire, ou bien la foi, c'est le don de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 2, et voilà un passage qu'il faut vraiment insister là-dessus, dans notre génération, parce que le salut est représenté comme étant une œuvre que l'homme accomplit. Mais ici, dans Éphésiens 2, et le verset 8, c'est écrit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Bien vrai, c'est écrit par le moyen de la foi. Cela veut dire, Dieu donne la foi pour recevoir ce que Christ accomplit. C'est la révélation de Christ au cœur. Mais notez bien, Éphésiens 2, 8 dit, « Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Et puis verset 9, « Ce n'est point par les œuvres. » Notez bien la différence entre les œuvres et ce que Christ dit ici, l'œuvre de Dieu. Bien vrai, les gens ont demandé, « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ?» Et Christ réduit tout à une œuvre de Dieu. Et notez bien, c'est l'œuvre de Dieu. Voilà l'œuvre que Dieu fait pour attirer les pécheurs à Christ. C'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Il leur donne cette foi. Et Éphésiens 2, 9 dit, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ou singulier, notez bien, ayant été créés en Jésus-Christ. Créés, c'est une création. Voilà l'œuvre de Dieu pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Voilà le dessein éternel de Dieu afin que nous les pratiquions. C'est comme la semence qui est semée et qui produit maintenant. La semence ne se glorifie pas. Le fruit ne se glorifie pas. C'est l'œuvre de Dieu. Et si Dieu, dans sa grâce, nous a sauvés, c'est par l'œuvre de Christ et c'est révélé par la foi. Voilà l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. C'est-à-dire que vous ne cherchez le salut en aucun autre, si ce n'est le Seigneur Jésus-Christ, et que vous le reconnaissez pour le Fils de Dieu et le Sauveur des pécheurs. Jean, plus tard dans son évangile, Jean chapitre, le Fils de Dieu est qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Ce n'est pas la foi qui est le salut, mais c'est la foi qui révèle le salut, qui n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. Et ayant cette foi, ceux à qui cette foi est donnée, alors ils se soumettent au Seigneur Jésus et comptent sur lui pour leur acceptation devant Dieu. Ils comptent uniquement sur sa médiation et il s'applique à lui pour cette grâce pardonnante et renouvelante que Dieu donne en Jésus-Christ. Donc, notre Seigneur les appelle à ce travail auquel ils doivent appartenir au salut. C'est appelé un travail, non parce que l'homme fournit l'effort, mais plutôt Dieu donne le vouloir et le pouvoir de venir à Christ et ainsi on trouve le salut en lui. Ma prière, c'est que le Seigneur nous donne par sa grâce cette foi.